Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Blaise Caillé, leader et producteur du groupe Sknea, à l'avant-garde du glitch jazz, fusion entre musique électronique minimale et jazz contemporain. L'interview, c'est après le générique. Bonjour Blaise Caillé.
Bonjour Thomas.
Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration.
Mais merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Bah écoute, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ton projet, de qui tu es, de ce que tu fais. Mais donc pour commencer, donc tu t'appelles Blaise Caillé, on en parlait oui. on l'a dit il y a quelques secondes. Tu es basé donc en Suisse, romande qui parle français.
Tout à fait.
Voilà, puisque vous êtes un pays multilingue. Et donc, tu as un projet qui s'appelle Sknail. Je l'ai accroché, c'est pas si évident à dire.
C'est normal.
Avant, peut-être qu'on rentre dans le détail du projet, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours? Et puis ensuite, on rentrera dans le détail du projet dont on va parler aujourd'hui.
D'accord. Donc, comme tu l'as dit avant, donc mon nom est Blaise Caillé, donc je vis à Lausanne en Suisse, et je suis musicien et producteur qui a créé justement le projet Sknail depuis 2013, qui est un projet qui mélange du jazz contemporain et puis de l'électro minimal, dit glitch, c'est-à-dire l'utilisation de défauts numériques informatiques pour en faire des micro samples de percussifs. Mélangé avec du jazz, donc voilà, peut-être on y reviendra peut-être après. Et puis sinon, moi j'ai une formation donc en jazz, en guitariste, je suis guitariste de jazz, j'ai fait une formation de jazz à l'EJMA, c'est l'école de jazz et de musique actuelle à Lausanne. Donc voilà, donc j'ai accompagné des groupes et des chanteurs ou chanteuses pendant pas mal d'années, et puis à un moment j'ai décidé, justement j'avais des idées en tête plutôt dans la création, la composition et la production, et j'ai décidé de laisser la guitare de côté pour m'adonner justement à la création et puis faire jouer les autres, engager d'autres musiciens, faire jouer les autres sur les idées que j'avais en tête. Voilà, donc c'est à peu près ça mon parcours. Donc une première moitié en tant que guitariste et une deuxième moitié en tant que producteur.
D'accord. Sknail, tu le disais, hein, donc l'idée c'est de mélanger jazz contemporain et du glitch, donc qui est plutôt une musique, comme tu disais, électronique minimale, qui joue, qui tire profit, on va dire, de ce qui pourrait sembler être une erreur ou un dysfonctionnement et d'en faire quelque chose d'artistique. Donc cette union, elle est pas a priori courante. Certains pourraient même dire qu'elle semble pas naturelle. Comment tu as eu l'idée, toi, de faire cette association et de démarrer un projet autour de cette patte sonore spécifique?
En fait, ça vient des influences. C'est-à-dire qu'il y a deux labels par hasard allemands que j'ai toujours adoré. C'est d'une part ECM pour ce qui est du jazz. Et puis l'autre, c'est le label Rasternoton, basé à Berlin, qui est le label de Alvan Otto. Et puis les deux, d'une certaine manière, n'ont pas, enfin un c'est du jazz acoustique et l'autre vraiment de l'électro minimal. Donc ces deux n'ont d'une certaine manière rien à voir. Et ben justement, si c'est vrai qu'à force d'écouter les productions et de l'un et de l'autre, il y avait comment dire d'une certaine manière cette esthétique assez assez éthérée, assez minimaliste, qui me plaisait beaucoup dans les deux, en fait, ce minimalisme, que ce soit dans le jazz ou la musique électro. En fait, à force d'écouter les différents artistes qui sont produits dans ces deux labels, l'idée m'est venue justement d'associer le son, on s'entend, c'est-à-dire l'esthétique du jazz contemporain qu'on peut faire chez ECM, et puis l'esthétique justement minimaliste de ce label Rasternoton, qui était créé par ce Alvan Otto, qui est un artiste berlinois qui a justement un petit peu instauré tout ce courant de glitch minimaliste dans les années 90, et puis qui continue maintenant. Donc voilà, en fait, l'idée est venue de là. C'était vraiment deux influences, non pas d'artiste, mais de label, en fait.
D'accord.
C'est ça qui était marrant.
C'est une esthétique, en fait, qui vous a amené vers ce lien entre les deux
exactement.
Mondes.
Exactement. Ouais, tout à fait.
D'accord.
Ouais, c'est ça.
Et donc le groupe Snail est né en 2013. Tu disais, aujourd'hui, vous avez sorti 4 albums studio depuis 2013, si oui. J'ai pas de bêtises. Et donc le tout dernier album est sorti donc le 13 novembre 2023 et s'appelle Ouija.
Oui. Exactement.
C'est ça. Ouais. Donc Ouija, c'est votre dernier album avec une esthétique, au-delà de l'esthétique musicale, une esthétique visuelle et une esthétique en termes de vocabulaire utilisé autour du projet qui est fortement marqué. Donc Ouija, pour ceux qui connaissent, ça vient du spiritisme et puis d'une certaine spiritualité, on pourrait dire, mais avec une approche vraiment liée plutôt à la mort, à la communication avec l'au-delà, avec les esprits, avec
tout à fait.
Et donc vous avez suivi cette logique également sur un certain nombre de titres d'ailleurs de l'album. Est-ce que tu peux nous expliquer cette esthétique que finalement on retrouve, alors pas de manière aussi marquée au niveau spiritisme, esprit, communication avec l'au-delà dans les autres albums, mais il y a quand même un côté un peu noir dans l'esthétique que vous utilisez sur les différents projets, les différents albums.
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'à chaque, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque album, on change non seulement d'une certaine manière d'instrumentation. Il y a toujours une base de musiciens qui sont là depuis le début, notamment le pianiste, le trompettiste, qui sont là depuis le début. Et puis à chaque album, j'essaye de changer un petit peu l'instrumentation. Donc ça, voilà, de garder toujours la même idée et l'instrumentation. De la changer à chaque album pour proposer quelque chose de nouveau. Et puis pour l'esthétique, c'est la même chose. C'est-à-dire pour chaque album, j'essaie de créer un monde différent, une esthétique différente, etc. Donc chaque album a son propre monde. Et puis effectivement, ce dernier album est plus marqué par les esprits, par d'une certaine manière ce qui nous entoure, peut-être aussi par rapport à ma vie personnelle, des choses qui sont passées, des décès, des choses, etc., qui influencent nos vies, et puis avec lesquelles on voit la vie un petit peu différemment. Et puis c'est vrai que l'idée de ce dernier album Ouija, justement qui est tombé à ce moment-là, qu'on a réalisé durant ces dernières années, l'idée était justement de proposer une espèce de communication avec les morts et les esprits, avec la musique, en fait. Donc,
ah ouais, d'accord.
C'était ça, quoi. C'était une autre. Le Ouija, en fait, ce Ouija, cette tablette de spiritisme, en fait, c'est la musique. Donc, d'une certaine manière, c'est la musique qui nous permet de communiquer avec ceux avec qui on a envie de communiquer, qui sont peut-être plus là.
Et donc, justement, tu parlais des personnes qui t'accompagnent, alors avec une base qui est fixe et puis un changement, notamment sur cet album Ouija. Un des éléments fortement marqués, en tout cas qui s'entend, c'est l'ajout d'un musicien qui joue du oud.
Oui, exactement.
Voilà, qui donne par nature, lié à l'instrument et probablement par rapport aussi à son bagage musical, une touche orientale comme ça, avec une approche un peu de la musique avec des quarts de ton peut-être ou une modération des notes qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude
tout à fait.
Côté occidental, on va dire. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des personnes qui t'accompagnent sur ce dernier album, et puis même au sens plus large dans le projet Snail, et puis justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce woodiste qui vient fortement teinter la musique de cet album?
Exactement. Donc en fait, il faut savoir aussi que ce projet, donc l'avant-dernier album est sorti en 2018, et j'ai commencé la production de l'album suivant en 2019. Donc c'est quand même un album qui, ça fait un petit moment qu'il est sur la table. Après forcément, il y a eu le Covid, il y a pas mal de choses qui se sont arrêtées, qui se sont retardées. C'est pour ça qu'il y a pas mal de temps entre le moment où on a commencé à le produire et puis sa sortie. Et puis en fait, j'ai commencé en fait de travailler sur cet album avec le batteur, parce que c'est vrai que sur le batteur, donc Cyril Régamet, et c'est vrai, il faut savoir que sur les autres albums, les trois autres albums, il n'y avait pas de batterie. Enfin, l'idée justement, c'était de mettre de la batterie sur ce nouvel album. Pour les raisons que je disais avant, c'était aussi pour proposer quelque chose de nouveau, changer l'instrumentation. Donc là, on a aussi le piano qui est toujours là avec François Lindberger, le trompettiste avec qui je collabore depuis le début de ce projet, c'est Yannick Barman, qui joue aussi à la trompette avec des effets, qui ajoute aussi une touche électro. Ouais. Et puis pour cet album Ouija, justement, j'adore le son du oud, et je suivais un artiste, enfin je suis toujours, mais qui s'appelle Amin Mrahi, et je lui ai demandé s'il était d'accord de collaborer sur ce projet, il a accepté. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, les enregistrements ont commencé à se faire. Et c'est vrai que quand je démarre un projet d'une certaine manière, je sais pas exactement où je vais aller. Je commence avec une base électro. Ensuite, j'enregistre les musiciens les uns après les autres. Donc en fait, les musiciens, au cours du processus de création, ne se rencontrent jamais, en fait. C'est-à-dire que je les enregistre, les uns, comme je te disais, les uns après les autres. Ensuite, en fonction de ce qu'ils ont fait sur la base électro, le premier, par exemple, je vais, comment dire, rééditer, recréer, etc., pour construire le morceau petit à petit en fonction de ce que le musicien a apporté.
D'accord.
Etc. Donc, le but, c'est étape par étape de toujours avoir d'une certaine manière que le morceau soit déjà bien comme ça avant de le proposer au musicien qui va venir après, tout en laissant de la place, de l'espace pour le musicien qui va venir après. Donc c'est vrai que il y a beaucoup, c'est vraiment un travail de studio, un travail d'édition qui se fait. Donc en général, les musiciens se voient même s'ils se connaissent tous, ils se connaissent absolument tous, mais en général, ils se voient le jour de la répétition.
Ah oui, d'accord.
Pour le concert, voilà, exactement.
Ok, ouais, c'est drôle. Ça me fait penser, alors je saurais plus, là, pour le coup, retrouver le nom, mais dans un autre domaine artistique, mais à des réalisateurs, par exemple, qui ont fait ça, ou les acteurs, j'avais déjà entendu ça, n'ont pas forcément toujours le scénario complet. On leur scène, mais pas forcément le scénario complet. Ils sont amenés à les jouer. Et en fait, c'est au moment où le montage est finalisé qu'ils peuvent découvrir l'entièreté de l'histoire. Alors bon.
Voilà, exactement. D'une certaine manière, oui, exactement. Ouais. C'est ça, quoi, effectivement.
Ouais. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Et en même temps, ça donne du coup la possibilité à chacun des musiciens d'apporter sa patte. Donc c'est à la fois un gros travail de studio très construit. Peut-être comme on a pu le voir notamment dans le rock des années 80 par exemple, où c'était très très studio, mais en même temps tu laisses une marge de manœuvre qui, alors à ce moment-là, se rapprocherait peut-être plus du jazz. C'est que finalement au moment de l'enregistrement, chacun a la possibilité d'apporter sa patte au moment de l'enregistrement, c'est ça?
Voilà, exactement, c'est ça. Donc je propose une base, la base est, comment dire, complétée par ce que entend le musicien, les propositions que je lui fais, l'orientation que je lui donne. Je laisse libre, et puis en fonction de ce qui est fait, après je retravaille le matériau qui a été enregistré.
D'accord.
Puis je convoque l'autre musicien pour etc. Donc c'est vraiment un travail qui se fait comme ça, donc c'est un petit peu plus long, mais
c'est
intéressant de travailler comme ça.
Ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, donc toi, effectivement, tu es producteur, tu es un peu le chef d'orchestre de tout ça. Voilà. Et notamment, un des morceaux que tu m'as envoyé, c'est Cellar of Heaven, où il y a un clip. Alors du coup, le clip ne représente pas l'enregistrement, puisqu'ils ont été tous enregistrés individuellement, donc vous avez retourné une session live pour faire ce clip, du coup, j'imagine.
Oui, exactement, tout à fait. Alors là, les deux clips qu'on a enregistrés ont été vraiment, le jour où on les a enregistrés, c'était vraiment une vraie session live qui a été faite en fonction de ce qui avait été enregistré. Donc là, non, vraiment, là, c'est du vrai live.
D'accord.
Donc durant les clips, effectivement, enfin les deux vidéos qu'on a faites finalement sont d'habitude pour les autres projets c'était des vidéos qui étaient plus ou qui étaient pas forcément live, et puis là on a décidé justement vu le projet de faire deux vidéos live qui pour présenter en fait qui sont les clips officiels de Ouija en fait.
Ouais, d'accord. Et donc on te voit dans ces clips, donc tu as pas un instrument au sens traditionnel du terme.
Non.
Donc toi sur scène, quel est ton rôle alors après, moi, quand je basculer sur la phase live, que pour ceux qui sont habitués aux instruments plus électroniques ou des choses qu'on peut avoir par exemple dans des postes de travail sur un ordinateur ou des choses comme ça, toi quel est ton rôle à ce moment-là, que sur quoi tu agis?
Alors en fait, je lance la musique électronique, donc il y a certaines séquences qui sont lancées, qui sont préenregistrées. D'autres au niveau des basses, par exemple, je vais peut-être jouer les basses sur certains morceaux ou lancer justement les glitches, les petits sons ou etc. Tout ce qui concerne en fait la musique électro, je lance directement live depuis live en fait, Ableton Live, sur scène. Voilà.
Donc, d'accord. Et donc vous avez une esthétique qui a été fortement travaillée en tout cas sur cet album, mais où il y a quand même une certaine diversité après dans les compositions. Comment ça c'est pareil, c'est quelque chose auquel tu avais pensé à l'avance, ou c'est quelque chose qui finalement est le résultat de ce qui s'est produit au moment des enregistrements? Parce que bon, par exemple, c'est Cellar of Heaven, effectivement tu disais vous avez un trompettiste qui utilise énormément d'effets, et là c'est un morceau où clairement il y a une belle démonstration de ce qu'on peut faire avec une pédale d'effet sur des enregistrements de trompette ou des choses comme ça. Ouija, où pour le coup là le glitch est extrêmement marqué, ou encore il y avait le morceau The Call, où il y a le deuxième clip, où là on se rapproche presque de l'americana ou du flamenco, presque dans la manière dont ça a été fait. Donc comment tu as pensé l'album dans son ensemble, comment vous avez pensé l'album dans son ensemble?
Alors justement, ça, c'était par rapport à ce que je disais au début, c'est que alors effectivement, c'est peut-être certaines bases électro que j'ai composées qui vont peut-être plus influencer. Il y en a certaines qui sont plus calmes, d'autres qui sont un petit peu plus soutenues. Et en fait, c'est souvent les patterns de batterie qu'on enregistrait qui définissent un petit peu si le morceau va être plus rock, plus jazz, plus ambiante suivant le morceau. Et donc en fait c'est vraiment toujours avec ce processus de création que le morceau va quand même commencer à prendre son empreinte. Donc et c'est vrai que vu que tout n'est pas enregistré en même temps, donc moi en général j'enregistre trois morceaux par trois morceaux, donc d'une certaine manière la série de trois morceaux va avoir une certaine influence, puis peut-être que deux mois après je refais une série de trois morceaux qui va avoir une autre influence, parce que c'est pas le même jour, c'est pas le même, ça n'a pas été fait à la même heure, pas forcément au même endroit. Ouais. Donc de toute façon les influences vont être différentes. Donc en fait le fait que certains morceaux soient plus rock, plus soutenus, d'autres que soient plus calmes, etc. C'est différentes dynamiques évoluent au fur et à mesure de la création.
En fait. D'accord.
Tout en faisant attention que ce soit de respecter une certaine diversité pour que tout l'album ne soit pas tout pareil, justement.
Extrêmement linéaire.
Voilà.
Ben, en tout cas, pour le coup, c'est réussi. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun morceau qui se ressemble. Enfin, il y a une touche, effectivement, ce que tu décrivais de glitch jazz qu'on retrouve partout. Mm-hmm. Et puis, il y a les effets qui sont utilisés pour les instruments et puis pour le oud qui sont fortement marqués. Et ça, pour le coup, c'est un peu le fil rouge, on va dire, de l'album. Mais d'un morceau à un autre, ça évolue énormément. C'est assez intéressant. Enfin, j'ai vraiment moi pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Mais par contre, ça a soulevé plein de questions, comme tu peux le voir.
Et donc, c'est le but.
Ouais, tout à fait. Donc, je voulais pouvoir en discuter avec toi. Et d'ailleurs, à ce propos, ce que tu me décris, ça évoque une nouvelle, un nouveau questionnement chez moi. Donc, tu as un processus d'enregistrement qui est particulier, hein, qui fait partie finalement du processus de création aussi. Enfin, mm-hmm. au-delà de la création du matériel sonore, c'est fait partie même du processus de création de la composition. Comment ça se passe au niveau de l'enregistrement? Tu fais ça chez toi? Tu fais des enregistrements un peu partout? Tu as des partenariats avec des studios? Comment ça se passe?
Mm-hmm. Alors, pour tous les instruments, comment dire, où il faut quand même un certain parc de micros, comme les batteries. Voilà, par exemple, enregistrer une batterie. Là, je vais dans un studio, donc là, j'aurai un partenariat avec un studio. Donc, toutes les batteries ont été enregistrées à un studio. Et, par contre, tous les autres instruments, au début, le piano, si c'est des pianos acoustiques, alors j'irai plutôt les enregistrer dans un studio, parce qu'il faut quand même bien savoir placer les micros. Par contre, il y en a beaucoup de, quand on a travaillé sur les démos au début, vous avez comme des pianos MIDI qui étaient directement enregistrés dans l'ordinateur. Mmh. Et les autres instruments, le oud, on l'enregistrait, soit dans mon studio, donc j'ai un studio à Lausanne, un local studio, alors on l'a enregistré là, ou directement chez le oudiste. Qui a aussi un studio chez lui.
D'accord.
Et puis le trompettiste, la même chose. Soit il était venu à Lausanne, ou j'étais allé chez lui dans son studio aussi, parce que c'est des instruments qu'on peut enregistrer à deux. Il y a un micro qu'on met devant l'instrument, et puis ça suffit. Donc voilà, en général, tous les enregistrements simples, c'est moi qui les fais. D'accord. Et puis dès que ça commence à devenir un petit peu plus complexe, là, je vais dans un studio.
Ouais, d'accord.
Donc, ouais. Mais j'essaye de faire un maximum moi-même. Il faut pas qu'il y ait plus qu'un micro. Voilà, c'est ça.
Ouais.
Deux micros, disons, ou deux micros, etc. Mais quand il commence à, quand ça, oui, typiquement la batterie, pour enregistrer une batterie, il faut quand même avoir certaines connaissances que, ou là que je n'ai pas. Je suis pas ingénieur du son.
Et donc il y a une question sur laquelle on est parvenu au moment de la présentation, ça me revient. Donc Snail, ça vient de snail, donc c'est l'escargot, mais avec un K au milieu qui vient écorcher un peu brusquer un peu l'oreille. Comment ça t'est venu? Parce que j'ai cru comprendre que c'était aussi ton surnom ou ton nom de scène.
Alors,
en tout cas.
Voilà, exactement. En fait, le nom du groupe Snail, c'est l'escargot avec un K au milieu. Donc, simplement peut-être pour glitcher, pour mettre un glitch, une complication, un petit défaut dans le nom. Le Snail étant effectivement, comme tu disais, l'escargot, puis qui est resté au fur et à mesure des albums un petit peu le logo, l'empreinte du groupe. Mm-hmm. Puis au fur et à mesure du temps, effectivement, ça, d'une certaine manière, c'est devenu mon nom d'artiste et mon nom de scène. Voilà. Alors, à la base, c'était prévu d'être le nom du groupe.
D'accord.
Et puis, donc voilà.
Et pourquoi avoir retenu le nom de l'escargot pour le nom du groupe? Comment ça vous est venu?
Alors en fait, le tout premier album, on voit la pochette de l'album, on voit un escargot sur une lame de rasoir. Je ne sais pas si tu avais vu cette...
Oui, j'ai vu.
Qui s'appelle Glitch Jazz, en fait, donc il donnait déjà un petit peu la couleur. Et puis, l'histoire de l'escargot sur une lame de rasoir, c'est tiré d'un film de Apocalypse Now, il parle justement un moment dans le film de l'escargot sur une lame de rasoir. Et puis cette image m'a toujours marqué, en fait.
D'accord.
D'autant plus d'une certaine manière, c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu révulsant, etc. Mais en fait, pas du tout, puisqu'un escargot, même sur une lame de rasoir, il lui arriverait strictement rien parce que son corps se régénère. Donc, voilà, enfin, il y a une espèce d'image par rapport à ça.
D'accord. Ok. Ok. Intéressant.
Il y a tout un symbole à interpréter chacun à sa manière. Donc en fait, c'est venu de là. C'est pour ça que dans le premier album, j'avais présenté sur la pochette un escargot sur une lame de rasoir. Mm-hmm. Et puis c'est resté comme ça, en fait.
Bah oui. Oui, bah, une fois qu'on a trouvé une identification, une identité
forte. Voilà, exactement.
Forte,
tout à fait.
Ça reste. Ouais, tout à fait. OK. Et donc, on parlait un petit peu, effectivement, vous avez organisé des sessions live pour pouvoir faire des clips officiels du groupe. Aujourd'hui, le groupe en live, comment ça se passe? C'est les mêmes musiciens qui ont fait les enregistrements qui tournent avec toi. D'une part, ça c'est plus au niveau de la formation et au niveau des dates. Qu'est-ce qui est prévu pour vous? Comment vous vous organisez justement pour faire tourner ce projet?
Alors, au niveau du... Alors effectivement, c'est les mêmes musiciens qui sont sur scène, mais ça peut être également joué en... Donc on est cinq, donc c'est en quintette. Ça peut aussi être joué en quartet. On l'a eu joué l'année passée aussi, sans le piano, parce qu'en l'occurrence, le pianiste n'avait pas pu venir. Donc on avait pu faire tout le répertoire sans piano, c'est possible aussi, ça pose pas de problème. Et puis au niveau des dates, donc il y a quelqu'un qui s'occupe du booking. Pour le moment, alors là, on a fait justement la semaine passée le vernissage de l'album, en fait, qui est sorti au mois de novembre, c'est quoi, le 18, 19, je sais plus.
J'ai noté le 17.
17, exactement, tout à fait, c'était le 17 novembre, merci. Et puis, donc, au mois de novembre, on a un concert, le vernissage, là, on a peut-être d'autres dates qui vont venir, pour le moment, il n'y a encore rien, mais ça, on verra on est en train d'organiser tout ça, les choses sont un petit peu passées comme ça, un peu à la dernière minute, donc, on s'organise pour trouver d'autres dates, mais pour le moment je n'ai pas encore de date à donner, mais ça ne saurait tarder.
Et donc quand elles seront disponibles, ces dates, ça se passe sur le site du groupe, sur la page Facebook, Instagram, où est-ce qu'on peut trouver
tout à fait? Oui, je les annonce un peu partout, sur le site du groupe qui est www.sknail.com, et puis aussi sur les pages Facebook, Instagram.
D'accord. Je remettrai ça sur la description de l'épisode, en tout cas pour que les auditeurs puissent aller voir et puis se renseigner par eux-mêmes et voir où est-ce que vous passez pour pouvoir vous voir live.
Volontiers.
Et donc l'objectif, c'est essayer de faire ça dans votre coin, peut-être parce que souvent autour de chez soi on a peut-être un peu plus de contact, mais aujourd'hui vous démarchez aussi quoi en France, en Belgique, enfin toute l'Europe, c'est quoi le périmètre d'analyse pour vous?
Alors effectivement, en Europe, il y a des possibilités, bien sûr, oui, tout à fait, ça c'est clair que c'est des possibilités de jouer en Europe, on le fera bien entendu.
Vous êtes ouvert.
Ça démarche un peu partout, voilà, exactement.
C'est cool. Très bien. Et donc tu disais ce projet, enfin le dernier en tout cas album, il a commencé en 2019, sorti en 2023. Pour toi aujourd'hui, comment tu te vois sur l'évolution du groupe? Il y a déjà quelque chose qui est en préparation on sait que le processus de création prend quand même pas mal de temps. Est-ce que tu réfléchis déjà à ça? Si oui, quelle est la direction que tu aimerais donner? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te fait envie aujourd'hui, en tout cas en termes de musique?
Alors là, actuellement, effectivement, j'aimerais donner une suite à ce projet, ça c'est clair. Donc je suis en train d'y réfléchir. Donc le but, c'est aussi de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de ne pas refaire la même chose que ce que j'ai pu faire sur les albums précédents. J'aime bien aussi mélanger les instruments, se faire retrouver des instruments qui n'ont pas forcément l'habitude de collaborer, bien qu'on entende sur une même production. Donc là, effectivement, je suis plutôt dans une phase où je réfléchis pour faire évoluer ce projet. Je verrai quelque chose peut-être un petit peu plus minimal, peut-être avec moins de monde, avoir aussi peut-être plus facile à gérer. Mais pour le moment, j'ai pas encore pris de décision. Puis j'aime beaucoup aussi faire des collaborations avec d'autres artistes, comme je le fais actuellement. Donc j'aime beaucoup aussi ne pas que faire de Sknail, mais aussi de collaborer avec d'autres artistes. Ça m'apporte beaucoup.
Et donc ça, toi, tu as des opportunités à titre personnel de faire un peu autre chose que Sknail. Du coup, à ce moment-là, t'es moins en pilotage et t'es plus au service d'un autre projet. Donc là, à ce moment-là, tu reprends la guitare ou tu restes dans ton rôle de...
Je reste toujours dans le rôle de production. Là, justement, il y a un nouveau projet, enfin un nouvel album qui va sortir. Qui est en l'occurrence le nouvel album de Rodolphe Burger, artiste français, artiste chanteur et guitariste français. Et puis là, j'ai collaboré avec Christophe Calpini, qui est aussi un producteur suisse-romand, batteur et producteur suisse-romand. Donc on a collaboré ensemble pour faire les musiques de ce prochain album qui devrait sortir dans le courant d'année, avant l'été en principe. D'accord. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple de production que je peux faire, auquel je participe, où je mets mes influences, mes esthétiques, et les mélanger justement avec les autres. Et moi, j'adore faire ça, en fait. J'adore collaborer avec d'autres personnes, d'autres musiciens. Puis, justement de mélanger. J'aime beaucoup le fait de, dans les collaborations, de pouvoir mélanger les esthétiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se construisent, qui se font, qu'on pourrait pas faire tout seul. Et j'aime bien le résultat de ces collaborations, en fait. Mmh. Le son, voilà.
D'accord, ouais. Quand tu disais tu réfléchis à ce que tu veux faire par la suite, c'est quoi ton processus justement de foisonnement en amont? Est-ce que ça passe par l'écoute d'autres artistes? Enfin, comment tu procèdes justement quand t'as réussi à accoucher d'un projet et que tu dis ok, maintenant il va falloir que je me projette sur quelque chose d'autre. Voilà, quel est ton mode opératoire?
Alors ça c'est... Là, j'ai pas vraiment de mode opératoire, c'est-à-dire que effectivement, la musique qu'on peut écouter à un certain moment va nous influencer, mais aussi tout ce qu'on vit au moment ou à l'instant T, comme on dit, quand on crée quelque chose, va forcément influencer le processus créatif. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et puis surtout c'est les rencontres qu'on fait. Les collaborations qu'on peut faire, et puis surtout une réflexion constante sur comment essayer de proposer quelque chose de nouveau, d'original, et puis de complémentaire par rapport à ce qu'on a fait. Ça peut être de l'électro toute seule. Il y a 2 ans, j'avais sorti un projet que j'ai appelé The Ghost, comme le fantôme, mm-hmm. mais avec un D-E et Ghost. Et ça, c'était un projet complètement électro. Il n'y a que de la musique électronique que j'avais produit tout seul. Donc, ça peut être aussi quelque chose c'est simplement sur le moment, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est vraiment des influences par rapport au moment que l'on vit et aux choses que l'on a envie de faire, en fait. C'est ça qui m'influence le plus, en fait.
D'accord. Ouais. Et justement, en termes d'influence, dans la musique électronique, il y a une part d'artistique, bien évidemment, mais il y a une part aussi de matériel. Ou en tout cas, ça peut être du logiciel ou ça peut être du matériel qui est quand même fort, qui vient un peu de la culture, en fait, de l'informatique et des choses comme ça, où voilà, l'évolution matérielle, l'évolution logicielle a un impact important sur la production musicale. Oui. Comment tu fais, toi, pour te tenir à jour, je sais pas si c'est le terme, ou pour être au fait des nouvelles techniques, des nouvelles technologies, des choses que tu pourrais du coup être amené à utiliser? Comment ça se passe? C'est juste que tu es passionné, donc tu es au courant, ou tu as une démarche spécifique, tu as une manière de procéder?
Alors pour la production informatique, en fait, que j'utilise, comme tous les producteurs, j'utilise beaucoup de plugins. Donc c'est vrai que les plugins d'effets, des plugins de traitement de son, etc. Donc forcément là, je suis toujours au courant. Je suis un petit peu les différents sites, les choses. Je reçois des newsletters, des nouveaux produits qui sortent. Et ça, c'est vrai que ça influence beaucoup le processus créatif, parce qu'on dit tiens, il y a ce nouvel effet, cette nouvelle réverb qui est sortie, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça peut donner sur ce morceau, sur cette production. Donc là, oui, effectivement, ça, je suis beaucoup un petit peu tout ce qui sort au niveau des nouveautés, des plugins, etc., etc. Aussi en écoutant, bien sûr, ce qui se fait sur la scène électro. Forcément, en écoutant d'autres artistes, voir un petit peu les modes qui évoluent, et puis les techniques aussi, les techniques de production, parce que les techniques de production d'enregistrement aussi changent aussi. Donc là, j'essaie un petit peu de voir, j'essaie de me renseigner aussi, puis de rester un petit peu up to date en suivant, je sais pas, c'est peut-être des vidéos sur YouTube, des forums, différentes choses pour me tenir informé. Des techniques et des modes aussi.
au-delà de, donc, tu t'as dit que t'étais toujours dans le processus de réflexion, de savoir ce que t'avais envie de faire. Toi, idéalement, alors que ce soit dans ce projet ou dans un autre d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a des choses que tu n'as pas encore accomplies musicalement et que tu aimerais faire, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a des choses qui te font rêver que tu n'as jamais fait parce que pas le temps ou pas les opportunités, ou peut-être aussi des fois on se fixe des barrières psychologiques en disant oh non, c'est trop lourd à mettre en place. Si tout ça, ça n'existait pas, toi aujourd'hui, dans quoi tu te lancerais musicalement en termes de projet?
Il y aurait deux choses. Alors, de continuer les collaborations avec d'autres artistes qui effectivement me feraient rêver, faire pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration, d'affection. Vraiment, ça me plairait beaucoup de collaborer avec ces artistes-là. Aussi, quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant et que j'aimerais beaucoup faire, c'est mélanger la musique avec les images. Et j'ai vu quelques artistes qui font ça et qui mélangent justement qui font une espèce de VJing, qui improvisent avec les images. On l'a fait pendant un concert en 2018 avec un artiste turc d'Istanbul qui était venu faire du VJing à Lausanne et qui nous a accompagnés pendant les concerts et qui avait du reste fait la fourre de l'album qui est sorti en 2018 et qui s'appelle Mutation. Avec lui, j'avais pu collaborer justement. Il avait fait toutes ces créations graphiques qu'il avait pu jouer en live, improviser au fur et à mesure de la musique. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, en fait, avec des musiciens d'électronique, et puis mettre les images par-dessus, images improvisées d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, en fait. Si je devais m'orienter vers quelque chose, ce serait plutôt par rapport à ça maintenant, parce que je l'ai jamais fait, ou alors j'en ai eu un petit, comme je te le disais tout à l'heure, j'en ai eu un petit extrait lors de ces deux concerts qu'on a fait en 2018. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais bien continuer à faire, en fait.
Ouais, du coup, le live prendrait une dimension différente, quoi. Ce serait pas, exactement. On se déplacerait pas uniquement, même si c'est déjà très bien, mais uniquement pour un concert, quoi. C'est quelque chose.
Ouais, exactement. Tout à fait. D'autant plus que j'ai toujours essayé de soigner l'esthétique, de chaque album, de par les pochettes, de par les vidéos, et que chaque album ait son esthétique propre. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup de mélanger, justement, la musique à l'esthétique. Voir le son et les images, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
Ouais, c'est des choses qui se font de plus en plus. Hein. C'est vrai qu'on voit, on voit qu'il y a une tendance artistique. Alors c'est aussi, je sais pas en Suisse en tout cas, mais par exemple en Belgique, c'est fort encouragé au niveau des subsides.
Oui, tout à fait. Oui, alors en Suisse, ça se fait aussi. Il y a aussi des projets qui se construisent.
Et il y a possibilité de débloquer des fois plus de subsides quand on arrive à faire des choses qui sont des formes multi-artistiques où on mélange un petit peu les genres. Et donc, c'est fortement encouragé. Donc, forcément, on en voit aussi plus. Et notamment, je me rappelle d'un festival où je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, où il y avait le batteur britannique Moses Boyd.
Oui, ok.
Qui jouait dans une installation qui avait été faite par un artiste belge.
Ok.
Et en fait, l'installation réagissait au son de la batterie. Et en fonction de la fréquence qui était utilisée, donc ça dépendait de s'il tapait sur les tomes ou sur la caisse claire ou sur la grosse caisse, etc. Et du volume, ça faisait un pattern visuel en termes de lumière qui variait. Donc ça faisait une chorégraphie de lumière en fonction de ce qu'il jouait.
Ça, c'est super intéressant.
Des images, mais c'est un peu dans cette même logique.
Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau visuel et qui se mélange avec la musique.
Ouais, tout à fait.
Au rythme. Donc voilà. Ça, c'est génial, effectivement.
Ouais, c'est hyper cool. Ouais, alors, du coup, c'est, en tout cas, lui, son installation était plus complexe à mettre en œuvre qu'un concert simple, hein, parce qu'il fallait faire
des installations. J'imagine.
Donc, du coup, t'es un peu moins mobile, peut-être. Mais mais pour le coup, en tant que spectateur, je trouve que c'est vraiment hyper cool. Ça permet de voir autre chose et de découvrir la musique dans un autre contexte, pardon.
Tout à fait. Puis pour un spectateur, c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est tout à fait intéressant justement. Et puis ça sort un petit peu des sentiers battus. De plus en plus, ça se fait de pouvoir mélanger la musique et les images. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Parce que vraiment, on peut se mettre comme ça dans le monde, directement dans le paysage. C'est, C'est vraiment cool à faire. Donc.
Blaise, merci beaucoup pour ta disponibilité encore une fois. Bravo pour ce nouvel album qui, je trouve, donne à réfléchir sur les nouvelles musiques improvisées. Alors, tu utilises le terme de glitch jazz, mais chacun met un peu ce qu'il veut, c'est derrière. Donc, j'aime bien, moi, dire les nouvelles musiques improvisées, comme ça, ça permet
oui, tout
de,
fait,
de tout couvrir. En tout cas, bravo pour ça, parce que, donc, comme tu le disais, il y a plein de choses, que ce soit sur les instruments utilisés, sur les inspirations, sur le mélange avec la musique électronique. Et donc, moi, j'ai passé un super moment en écoutant votre album. Bravo pour l'effort aussi d'un point de vue esthétique que tu mets, puisque ça participe aussi à l'imaginaire, je trouve, qu'on développe autour de l'écoute, en fait, quand il y a tout ça qui va avec. Donc je remettrai toutes les informations, comme je disais tout à l'heure, dans la description de l'épisode, et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir Snail et à écouter ce dernier album, mais les autres également, pour ceux qui découvrent. Voilà. Merci beaucoup.
Tout à fait, en tout cas, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Je te remercie pour tout.
Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Vous voulez aider le podcast à se développer? C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. À très bientôt. Je vous laisse sur le titre Ouija de Skner.